après cette introduction, nous allons rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors, bon, je suppose que le public ici présent a entendu parler déjà du noachisme, mais comme on dit toujours en hébreu, « Narzor à la richonote », revenons toujours aux prémices, aux premières choses. C'est très important pour comprendre ce que l'on fait, de savoir quel est le point de départ. Comme on dit, « Da me'ayin ataba ou le'an ataoler ». Si, il faut d'abord savoir où tu viens et après savoir où est-ce que tu vas. Ce qui est une manière de dire, si on sait d'où on vient, on sait où on va. Bon, alors, comme vous le savez, l'humanité a fait une très longue route depuis plusieurs milliers d'années. Et tout un travail, dont on a déjà pas mal avancé. Et je voudrais retrouver un peu avec vous la manière, enfin ce que dit la Torah, de la manière dont l'humanité a évolué jusqu'à ce qu'on arrive à la distinction entre Israël et les nations et le pourquoi de cette distinction et qu'est-ce qu'il y aurait à réparer. Alors, je vais aller très rapidement, non pas aux origines de l'humanité, mais je voudrais me rapporter à ce passage de la Torah qui nous parle de la formation des nations. Vous savez que l'humanité est faite non seulement d'individus, mais elle est faite également de collectivités. Il y a des collectivités humaines qu'on appelle des nations. Comment est-ce qu'on dit des nations en hébreu? Vous savez? Alors,
non,
vous n'avez pas? Eh bien, des nations, ça se dit goyim, goy. Oui, le mot goy, qui désigne aujourd'hui l'individu qui n'est pas juif, en hébreu, dans la Bible, le mot goy ne veut pas dire un individu. Le mot goy veut dire une nation. Et c'est quelque chose que la Torah relève, que les hommes se sont organisés en collectivité humaine. Il y a des Japonais, il y a des Français, il y a des Norvégiens, il y a des Égyptiens, et chaque identité humaine s'organise autour d'une collectivité, dans le cadre d'une collectivité. Et du point de vue de la Torah, c'est extrêmement signifiant ceci. C'est-à-dire qu'il y a un désir des hommes, non seulement de vivre les hommes ne veulent pas vivre seulement individuellement leur identité humaine, mais ils veulent le vivre en collectivité. Mais il y a un autre nom pour les groupements humains. Les groupements humains, avant de s'appeler des goyim, s'appelaient des familles. Famille de la terre, Mishperchot Ha'adama. Et là, je voudrais vous citer à ce propos un verset du livre de Bereshit, la Genèse, dans le chapitre 10, au verset 31. Comme ça, vous aurez l'occasion de vérifier si je vous dis la vérité ou pas. C'est au chapitre 10 de Bereshit, la Genèse, au verset 31. Et voici le verset. « Ele Beneshem » les Toldotam, voici les engendrements des fils de Shem, une des trois familles de la terre, Shem, Ham et Yefet, les Mishperotam, l'Ilshonotam, selon leur famille et leur langage, Be'artsotam, les Goyehem, dans leur pays, selon leur nation. Alors, ça veut dire quoi ça? Vous avez donc une phrase extrêmement lourde. Plus lourd que ça, on ne tient plus le coup. Je reprends la phrase. Les Mishperotam, l'Ilshonotam, Be'artsotam, les Goyehem. En français, selon leur famille et leur langage, dans leur pays, selon leur nation. Ah, petit avertissement. Quand j'enseigne quelque chose, au début c'est très simple et ça devient de plus en plus compliqué. Donc si quelque chose n'est pas clair au début, il faut le dire tout de suite. Il n'y a aucun espoir que la suite du cours éclaircisse la chose. Donc si quelque chose n'est pas clair, il faut le dire tout de suite. Maintenant, si vous pouvez lui dire là au téléphone que je ne suis pas là, ce serait bien. Alors je reprends. La Torah nous parle d'une transformation qui s'est faite dans l'humanité. Au début, les groupements humains étaient faits de familles, ce qu'on appelle en hébreu « mishpachot ». Et ce qui fait... Mais par la suite, il s'est passé quelque chose. Les familles sont devenues des nations, goyim. Et du point de vue de la Torah, c'est une chute. Pourquoi? Parce que la relation normale entre deux familles, c'est la paix. C'est-à-dire, entre familles, ben, on s'aime bien, on fait un pique-nique ensemble, Et puis on fait des mariages, on organise des sorties ensemble. Il y a beaucoup de choses, il y a des relations amicales. Quand il y a un conflit entre deux familles, c'est l'exception. Mais entre familles, on s'aime bien, même si on n'est pas exactement la même chose. Par contre, entre nations, entre goyim, la situation normale, c'est la guerre. À tel point même que le prophète Yeshayahu, Isaïe, nous dit que viendra un temps où Lo yissa goy el goy cherem, une nation ne portera plus l'épée contre une autre nation. Velo ilbedu od milchama, on n'apprendra plus la guerre. C'est-à-dire que pour le prophète, si une nation ne fait pas la guerre à une autre nation, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Donc on peut dire que les groupements humains sont passés d'une situation où ce qui fait où les hommes se connaissent en tant que famille, et donc ont une relation pacifique, pour devenir des goyim, des nations, et il y a une relation belliqueuse. Et remarquons qu'une nation, en fait, c'est une sorte de micro-humanité. À partir du moment où vous avez une nation, on invente ce qu'on appelle l'étranger. L'étranger est exclu de la vie, de l'humanité en vérité. Vous savez, il y a une déclaration bien connue, vous connaissez peut-être, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire qu'au départ, les droits sont des droits de l'homme, en principe, mais dans la réalité, ce sont des droits du citoyen. C'est-à-dire celui qui est en dehors de la cité est exclu de l'humanité. C'est ça quand on passe de la famille à la nation. Je vous rappelle les mots en hébreu, Mishpacha à God. Et la Torah nous explique de manière très simple comment ce passage s'est fait. Ce qui fait qu'une famille de l'humanité est une famille, c'est ce qu'on appelle le langage. Le langage en hébreu, Lachon. Ce qui désigne que l'organe appelé la langue. La langue se trouve au fond de la bouche. Il n'est pas à l'extérieur. Contrairement à un autre mot en hébreu pour dire une langue, ceux qui connaissent l'hébreu, le mot safa. Safa veut dire la lèvre. C'est-à-dire qu'en hébreu, vous avez deux termes. Un terme qui parle de la langue en tant que moyen extérieur de communication, mais vous avez également la langue en tant que langage, ce qui est l'expression de l'intériorité. Disons plus simplement en français, la culture. À partir du moment où les différences entre les hommes sont des différences culturelles, on peut faire des échanges interculturels. Mais, un moment vient où c'est le territoire qui va définir l'identité des hommes. Be'artsotam les goyen, quand ils sont passés dans leur terre, ils sont devenus des goyens. Et à partir du moment où c'est le territoire qui va définir l'identité humaine, celui qui est en dehors de ce territoire est exclu. Et donc vous avez une chute. Une chute, et cette chute est terrible, parce qu'elle va entraîner la guerre universelle. Alors, il y a différentes stratégies qu'ont inventées les hommes pour surmonter le problème. La première stratégie consiste à uniformiser l'humanité. C'est la tentative de la tour de Babel. Dans la tour de Babel, on a voulu effacer les différences. Parce que les hommes se sont dit... Ce sont les différences qui entraînent la violence. Eh bien, nous allons supprimer les différences, et comme ça, il n'y aura plus de violence. Mais en fait, bon, ça a l'air très beau, mais en vérité, c'est extrêmement immoral, cette prise de position. Parce que ça veut dire que je suis capable de t'aimer uniquement s'il n'y a pas de différence entre toi et moi. Et donc, imaginez que je vous dise, voilà, je voudrais bien t'aimer, mais comme tu es différent de moi, je ne peux pas t'aimer. Alors deviens comme moi, comme ça on pourra s'aimer. C'est une manière de dire, de manière très polie, je te déteste. Je ne peux pas te supporter. Comme on dit en bon français, je t'encaisse pas. Ça veut dire, j'ai du mal à accepter ta différence. Et donc, nous allons supprimer la différence. Mais vous savez ce que ça donne? Ça donne des régimes totalitaires dans lesquels les individus n'ont plus de sens. Parce que si tous les hommes sont la réplique du même modèle, alors on n'a pas tellement besoin de tellement d'hommes. Pourquoi un million d'hommes si ils sont un million de fois la même chose? Or la Torah nous dit que chaque homme a été fait selon un moule particulier à lui. Mon identité est irremplaçable. Ton identité est irremplaçable. Et donc la Torah nous raconte l'échec de la tour de Babel à travers une révélation. La Torah nous dit que Dieu est descendu pour voir la tour de Babel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en se révélant, chacun des hommes a ressenti son identité particulière de manière très forte. Il ne pouvait pas accepter l'autre. Donc la Torah refuse l'uniformité des hommes comme solution pour avoir la paix. Bien que parfois ça marche. Ben oui, vous avez qu'à voir, par exemple, il y avait un État en Europe, on appelait la Yougoslavie, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, ça s'appelait la Yougoslavie. C'était un peuple, c'était un pays qui était formé de 8 nationalités différentes, mais qui était dirigé par un même régime totalitaire, donc il y avait la paix entre eux. Dès que le régime totalitaire est tombé, eh bien, la Yougoslavie s'est disloquée, ça fait des guerres extrêmement sanguinaires. En tout cas, nous avons donc dans cette idée-là que on ne peut pas admettre l'uniformité. Mais alors que faire pour qu'il n'y ait pas la guerre entre les nations? Chaque nation va se spécifier. Alors chaque nation maintenant a une tentation. La tentation, c'est ce qu'on appelle l'impérialisme. L'impérialisme peut être culturel ou politique. C'est-à-dire que chaque identité humaine va essayer de s'emparer des autres identités. Un exemple de cela, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle... Non, je vous rappelle quelque chose qui s'est passé au XXe siècle. C'était il n'y a pas trop longtemps. Il y avait ce qu'on appelait le colonialisme. Le colonialisme, par exemple, français, que je connais un peu, était persuadé que tout homme sur la Terre est français. Ça veut dire que tout homme sur Terre mange de la baguette et est inscrit au gaz de France. Et porte le béret, c'était ce qu'on portait avant en France. Et puis, aujourd'hui, vous avez l'impérialisme culturel américain qui est persuadé que tout homme sur la Terre est américain. Certains le savent déjà, certains ne le savent pas encore. Un jour viendra où tout le monde saura qu'il est américain, puisque tout le monde boira du Coca-Cola et mangera des hamburgers. Vous comprenez, c'est très important. Ce qu'on mange et ce qu'on boit fait partie de l'identité. C'est pas pour rien qu'il y a des interdits alimentaires dans la tradition d'Israël et dans d'autres religions aussi. Parce qu'on comprend que ce que l'on consomme, c'est quelque chose. J'ai connu un de mes maîtres, Rav Yehuda Ashkenazi, le Tzadik Livracha, qui a rencontré une fois un ecclésiastique français qui lui a dit « Monsieur le rabbin, je suis arrivé à la conclusion que le judaïsme a raison. » Alors, le Rav lui demande « Mais enfin, pourquoi vous ne vous convertissez pas au judaïsme ?» Il dit « Parce que je suis alsacien et que le plat national chez nous, c'est la choucroute et que ce n'est pas cachère. » Le rabbin lui dit « Mais enfin, vous savez, il y a de la choucroute cachère. » Et il répond « Oui, mais c'est pas la même chose. » Et c'est extrêmement authentique, cette réaction. On est ce qu'on mange. Et donc, pour revenir à notre sujet, la Torah refuse également l'impérialisme. L'impérialisme, ça voudrait dire « Pour que je sois capable d'aimer tout le monde, il faut que tout le monde soit comme moi. » C'est une autre version de la tour de Babel. Alors, il y a une autre solution. La solution que nous présente la Torah dans le chapitre 11 de Bereshit, c'est l'apparition d'une nouvelle identité supplémentaire, l'apparition du peuple d'Israël, qui justement n'est pas impérialiste, comme a si bien dit M. Morama. L'identité d'Israël est là pour servir de 71e. Vous savez qu'il y a 70 nations comme archétype, et il y a une 71e nation qui est là pour servir de bénédiction. Mais alors là, on va tomber dans le paradoxal. Je reprends ici au chapitre 12 maintenant de Bereshit. Vous voyez que je vais très vite. Si on continue comme ça, on n'arrivera probablement à la fin de la Torah avant la fin de la journée. Dans le chapitre 12, au verset 2, quand Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit « Il faut que tu quittes ton pays pour fonder une nouvelle nation. Ve'esra l'egoï gadol. » Mais on avait dit que les nations, ce n'était pas une bonne chose, qu'il fallait être des familles. Et pourtant, Dieu demande à Abraham de fonder une nation. Encore une identité nationale, encore des guerres. Vous comprenez le problème. Mais ce que dit la Torah, c'est que c'est une nation qui va servir à autre chose que ce à quoi servent les nations jusqu'à présent. Chaque nation est une forme étendue, si vous voulez, de l'égoïsme. C'est-à-dire, au lieu de me limiter à ma personne, je vais me limiter à mon identité nationale. Mais ça sera toujours, en fait, une sorte de, si vous voulez, d'égoïsme élargi. Mais ce que dit la Torah, c'est une nation qui va servir aux autres nations à redevenir des familles. Regardez ce que dit la Torah. Vénivrechou becha, et par toi seront bénis, kol mishpechot ha'adama, toutes les familles de la terre. C'est-à-dire, s'il y a un rôle important dans l'humanité au peuple d'Israël, c'est de servir aux autres nations de foyer central qui va permettre aux nations de redevenir des familles. Et donc, vous pouvez comprendre à partir de cela la prophétie du prophète Zacharie dans le chapitre 14. Vous connaissez Zacharie dans le chapitre 14. C'est très simple. Il nous parle là-bas du dernier conflit entre les nations et Israël à la fin de l'histoire, ce qu'on appelle traditionnellement la guerre de Gog et Magog. Et ce que nous dit là-bas le prophète, c'est que viendra un jour où ce qui restera des Goyim deviendra des familles. Et il nous décrit la fête de Sukkot à Jérusalem lorsque de toutes les familles de la terre, Mikol Mishperot Adama, on viendra se prosterner dans le temple de Jérusalem. Et donc il y a cet espoir que, et là, le prophète, au lieu de dire la nation d'Égypte, dit la famille d'Égypte, Mishperot Mitzrayim. C'est-à-dire, vous avez cet espoir qu'à travers Israël, à travers l'enseignement d'Israël, les distinctions nationales ne vont pas disparaître, mais vont s'estomper pour cesser d'être belliqueuses et devenir pacifiques. Mais elles seront pacifiques non pas parce que les hommes deviendront des humanistes, aiment l'homme, mais parce qu'ils se reconnaissent comme étant le fils d'un même créateur. Et là, je vais encore plus loin. Je vais au chapitre 28 déjà de Bereshit. Rendez compte, on va à une vitesse vertigineuse. Dans le chapitre 28 de Bereshit, la Torah nous raconte le départ de notre ancêtre à nous, Jacob, quand il part pour la première fois en exil. C'est le premier exil du peuple d'Israël à travers une personne, Jacob. Et la Torah nous raconte ce qu'il fait lorsqu'il arrive dans le pays de Haran. Haran, qui est aujourd'hui en Turquie, à la frontière de la Syrie, qui était un des lieux d'origine de la famille d'Abraham. Yaakov, Jacob, arrive à Haran, il rencontre les bergers. Et la Torah nous raconte en long et en large la discussion qu'il a avec les bergers. Pourquoi est-ce que la Torah nous parlerait de cette discussion? C'est très simple, parce que les bergers, ça veut dire les dirigeants. Ce sont les dirigeants des nations. Et donc, Yaakov, en tant qu'Israël, arrive chez les nations, et puis il voit qu'il y a un puits, mais que le puits est bouché par une grosse pierre. À quoi sert un puits? Vous savez certainement, non? À boire. Non, aujourd'hui on boit dans des bouteilles, mais avant c'était dans un puits. Et si on ne boit pas, on meurt. Donc le puits figure la source de la vie. Et ce que Yaakov a vu, c'est que les sources de la vie étaient bouchées. Et pourquoi est-ce que les sources de la vie sont bouchées? Bien parce qu'il y a une grosse pierre. Vous savez c'est quoi la grosse pierre d'après le prophète Ézéchiel? C'est le cœur qui est un cœur de pierre. Le cœur des hommes est un cœur de pierre et ça bouche les trous. Et ça bouche l'orifice de la vie. Alors comment faire? Alors la Torah nous dit, oui, mais il faut que les troupeaux se réunissent et que tous les bergers fassent rouler la pierre ensemble. Vous comprenez ce que ça figure? Il faut l'humanité tout entière qui se réunisse pour faire bouger la pierre. Mais si on a réussi, vous savez ce qui se passe après quand on fait boire les troupeaux? On remet la pierre en place. Folie. Pourquoi ne pas mettre, je sais pas, un couvercle de bois ou de plastique, quelque chose comme ça, plus facile à bouger. Pourquoi à chaque fois amener une pierre énorme qui a besoin de tout le monde? C'est parce que personne ne veut que l'on donne à boire au troupeau, pas en sa présence. Il n'y a pas de confiance. On se réunit ensemble pour s'abreuver, mais ce n'est pas par amour de l'autre, c'est par intérêt. Et quand Yaakov s'adresse à eux, « Vayomer lahem Yaakov », Jacob leur dit. Et le premier mot qu'il emploie, c'est Ahai, mes frères. Il vient leur dire, vous êtes frères. C'est ça le message d'Israël à l'humanité. Et il leur explique, mais comment est-ce que vous savez que vous êtes des frères? Mais Aïn Atem, parce que vous venez tous du néant. Vous avez le même créateur. On a l'habitude de traduire mais Aïn Atem. D'où venez-vous? Mais on peut très bien dire ça sans point d'interrogation, c'est-à-dire vous venez du néant. Comme vous venez du néant, vous avez donc le même créateur, donc vous êtes des frères. Réponse des bergers, Nenni, pas du tout. Vayomeru, Meharan, Anachnu. Ils ont répondu, nous venons de Haran. Haran, ça veut dire le lieu de la colère du monde. Haron, Af. C'est, nous venons d'un monde déterminé, dans lequel il y a des rivalités. Alors, Yaakov demande, ah si c'est comme ça, Ayedatem et Laban ben Nahor, avez-vous entendu parler de Laban, fils de Nahor? C'est-à-dire, est-ce que vous avez entendu parler de la famille d'Abraham? Est-ce que vous avez eu vent de l'existence de ce peuple qui a quelque chose à vous amener. Et ils disent, Yadan, nous avons entendu parler de ça. La Bible fait partie de nos best-sellers. Elle est présente dans toutes nos bibliothèques. Question posée par Yaakov. Vayomer HaShalom Lo, est-ce que vous avez la paix chez lui? Est-ce que ce que vous avez compris du message biblique, c'est un message de paix? Et dire, Vayomeru, Shalom, nous avons compris qu'il y avait là-bas la paix. Et voici que Rachel, la fille de Bethuel, la fille de Lavan, fils de Bethuel, arrive maintenant pour donner à boire à ses troupeaux. Et alors, à partir de ce moment-là, le texte change totalement de direction. Et Yaakov va épouser Rachel pour fonder le peuple d'Israël. C'est-à-dire que ce que décide Yaakov de faire, c'est de remplacer l'humanité là où elle a échoué. Et c'est lui qui fait rouler tout seul la pierre du puits. Bon, alors, évidemment, on pourrait rentrer très très loin dans l'explication de ce passage, mais ce que je voudrais dire, c'est que, fondamentalement, le message d'Israël est un message de paix et de fraternité. Cette fraternité a pour origine la conscience que nous avons tous un même Créateur, que c'est dans la connaissance de ce Créateur que l'humanité peut arriver à sa rédemption. Si vous voulez, tout ce que je veux dire, c'est le point de départ. J'espère être clair jusqu'à présent, parce que vous avez en fin de cours une interrogation écrite et qui sera notée. Donc vous avez intérêt à vous rappeler de tout ce qui est dit maintenant. Maintenant, si vous faites preuve d'attention, de compréhension, on renoncera à vous faire passer l'interro. Vous recevrez une bonne note malgré tout. Et donc, je voudrais maintenant me référer à un mot que nous avons cité tout à l'heure, Béni vrechou becha kol mishperot ha'adama, par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Alors le mot par toi seront bénies en hébreu Béni vrechou est une mauvaise traduction. Vous savez, très souvent, quand vous entendrez un cours de Torah, on vous dira oui, mais c'est mal traduit. Mais c'est vrai, c'est très mal traduit parce que l'hébreu de la Torah, c'est un hébreu de l'époque des prophètes. Tandis qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde post-prophétique et nous avons donc du mal parfois à comprendre ce que veut nous dire la Torah. Mais que veut dire le mot « venivrechou » ? En hébreu, pour dire « par toi seront bénis », on devrait dire, je parle ici pour les hébraïsants, « vehit barechou ». « Par toi seront bénis »,« vehit barechou ». Mais la Torah ne dit pas ce mot-là, elle dit un autre mot, « venivrechou », qui veut dire « en toi seront marcotées toutes les nations de la terre ». C'est donc du marcottage. Comment ?
Comme dans la botanique.
C'est extraordinaire. Vous faites de la viticulture ?
Non.
Non. D'accord. Eh bien, effectivement, ce mot marcottage n'est pas toujours connu de tous les francophones. Le marcottage est une opération agricole qui se fait dans les vignes. Moi, je vais demander si vous faites de la viticulture. C'est quoi un marcottage ? En hébreu, avracha. C'est, on prend un sarment de vigne, l'arbre de la vigne est un cep, et qu'il y a des branches qu'on appelle des sarments. Et le sarment est un peu élastique, ça peut se courber. Alors ce que fait le viticulteur, il prend un sarment, il l'enterre dans le sol, et comme par hasard, le sarment donne des racines et une nouvelle vigne. Et cette expression en hébreu se dit avracha, c'est à rapprocher du mot genou, parce que le sarment prend la forme d'un genou quand on le courbe. Et donc, quand la Torah dit à Abraham, en toi seront marcotées, nivrechou, toutes les nations de la terre, c'est-à-dire que Abraham fait figure du terreau, et les nations sont des vignobles, sont des ceps, et que les ceps se réunissent à travers Israël. Nous avons une très belle expression quand nous parlons de l'élection d'Israël dans nos bénédictions, dans les prières, nous disons, Asher Bachar Banu Mikol Ahamim. Il nous a élus d'entre toutes les nations. Mais littéralement en hébreu, ça veut dire qu'il a pris un peu de chaque nation pour en faire Israël. C'est-à-dire que c'est une nation à vocation universelle et non pas prosélytique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de transformer le monde en Israël, mais au contraire de donner aux nations les éléments spirituels et moraux qui vont leur permettre d'accéder à la sainteté collective. Maintenant, je vais encore compliquer la chose. Ah oui, non, je complique. Hein. Il n'y a rien à faire. Mais ce sont des choses assez importantes pour être bien comprises. Vous savez que le peuple d'Israël a une chance extraordinaire. Nous sommes une nation sainte. Am Kadosh. Une nation sainte C'est très fort. Que fait celui qui n'est pas membre de la nation sainte? Il peut devenir un individu saint. C'est-à-dire, on peut être de n'importe quelle nation dans le monde et sanctifier sa vie. Il y a des moyens de sanctifier sa vie, c'est ce qu'on appelle la sainteté individuelle, Kedushat HaPrat. Mais il y a également la sainteté collective, celle du peuple d'Israël. Les autres nations n'ont pas encore accédé dans l'histoire au statut de peuple saint. Mais viendra un jour où le prophète Zécharia, dans le chapitre 2, nous dit « Venilvu goyim rabim velachem vayomahu » c'est l'Aftara que nous lisons à Hanouka, « de nombreuses nations s'associeront à Dieu en ce jour » et regardez l'audace du prophète « Vehayuli le'am » et seront pour moi un peuple. C'est-à-dire que l'expérience que nous autres, peuple d'Israël, nous avons déjà eue d'être une nation sainte, c'est quelque chose que nous voulons aider les autres nations à devenir. Et donc vous aurez une Norvège sainte, une France sainte, etc. Et on peut dire d'une certaine manière que viendra un temps, c'est ce que disent certains kabbalistes, où les nations accéderont au niveau des juifs d'exil. C'est-à-dire, nous avons deux sortes de juifs, ceux qui sont déjà en Eretz Israël, ceux qui sont encore en Gola, eh bien, viendra un temps où les nations accéderont à ce niveau, au niveau collectif. Qu'en sera-t-il du peuple d'Israël alors? Sera-t-il égalisé avec les nations? Non, non, ne vous en faites pas, nous gardons notre spécificité. La Torah nous appelle une nation de prêtres, Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres. Nous autres, les juifs, nous avons deux sortes de juifs. Nous avons ceux qui sont Kohanim, ceux qui sont prêtres, et ceux qui ne le sont pas. Par exemple, moi je ne le suis pas. Vous avez, dans vos connaissances, des hommes qu'on appelle Kohen, n'est-ce pas? Vous avez entendu parler de ce nom de famille. En général, les Kohen sont des prêtres. Mais en tant que nation, nous sommes une nation de Kohanim, et donc viendra un temps où quand les nations accéderont au niveau de la sainteté collective d'Israël, eh bien tout Israël accédera au niveau des Kohanim. Et nos Kohanim, alors nos prêtres, est-ce qu'ils vont devenir les pauvres? Non, ils accéderont au niveau du grand prêtre, Kohen Gadol. Nous avons un passage dans le livre d'Ézéchiel qui en parle. D'Ézéchiel, qui en parle. Et qu'est-ce qu'il en sera du grand prêtre, lui, quand tous les prêtres arriveront au niveau du grand prêtre? Eh bien, lui deviendra Superman. Probablement. En tout cas, c'est-à-dire qu'il y a une ascension permanente du niveau spirituel. C'est ça, donc, qui est proposé. Alors, donc, si c'est vrai ce que je vous dis, tout ce que nous faisons aujourd'hui dans ce séminaire n'a rien à voir. En fait, nous faisons une gaffe monumentale en faisant ce séminaire. Parce que ce séminaire, je vais vous expliquer pourquoi c'est une gaffe. Parce que nous sommes tous ici des individus qui voulons sanctifier notre vie. Ce qui est très bien. Mais le but, d'après ce que nous a raconté la Torah, ce n'est pas les individus, c'est les nations. Donc si tout marchait comme il faudrait que le premier ministre israélien ou le président israélien s'adresse au président français, au président américain, et leur explique comment sanctifier l'Amérique ou la France. C'est comme ça qu'il faudrait que ça se passe. C'est-à-dire que ça se passe de collectivité à collectivité, et donc je devrais faire vivre mon organisation, et on devrait également supprimer ce séminaire. Voilà, vous avez donc compris pourquoi c'est une gaffe monumentale. Seulement, j'ai entendu dire que les responsables politiques israéliens ne sont pas encore arrivés à la conscience que c'est important ce que je viens de dire, et donc, ils ne s'adressent pas aux nations. Alors, pour l'instant, nous travaillons au niveau individuel. Mais sachez que, pour les nations, en tant qu'entité politique, en tant qu'entité collective, ce que le peuple d'Israël pense d'eux est important. Je vais vous donner un exemple très simple de ça. Vous savez qu'il y a aujourd'hui une persécution terrible en Chine, des Falun Gong. Vous avez entendu parler de ça?
Tout à fait.
Tout à fait, n'est-ce pas?
Oui.
Il y a aujourd'hui une persécution politique très grave contre un groupe important qu'on appelle les Falun Gong, qui servent de plantation d'organes. C'est-à-dire on vend les organes de ces prisonniers politiques pour faire des greffes dans le monde entier. Alors, il y a une protestation contre cela à la Knesset, en Israël. Alors, les ministres israéliens, pour des raisons d'intérêt économique, n'ont pas trop fait de bruit, mais quelques députés israéliens, qui sont parmi mes amis, ont fait une protestation. Et je vous dis tout de suite, le gouvernement chinois a fait des efforts gigantesques pour empêcher le débat à la Knesset autour de ça. C'est-à-dire pour vous dire à quel point ce que pense le peuple d'Israël des nations est important pour les nations. Et donc, nous n'avons pas perdu l'espoir, mais enfin, pour l'instant, nous commençons par nous, les individus des différentes nations, et dans la suite de la journée, on vous racontera un peu ce qui se passe dans le monde entier avec les Noachides, le nombre de communautés qui s'intéressent et qui s'adressent aux rabbins pour avoir des instructions. En tout cas, ce que nous faisons ici est un début. Nous avons ici l'honneur d'être des hirondelles, d'être les pionniers d'un mouvement qui arrivera pas grand-chose. Il s'agit simplement de 7 milliards d'individus qu'il faut contacter. Nous allons nous contenter au début d'un seul milliard. Et nous allons commencer tout d'abord par 100 000 personnes. Ce n'est pas grand-chose, mais enfin, on peut commencer à être le premier noyau d'un groupe important des hommes. Après, ça fait comme boule de neige. Je voudrais vous expliquer un peu qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de promouvoir le noachisme. Le noachisme, vous savez, bon, c'est très ancien, ça se trouve dans la tradition d'Israël, on en parle un peu partout. Il y a déjà dans le Talmud, dans le Rambam, dans Maïmonide, il y a dans la tradition rabbinique, on parle beaucoup du noachisme. Et qu'est-ce qui fait que pendant si longtemps, on ne s'en est pas occupé? On ne s'en est pas occupé parce que nous autres, les enfants d'Israël, malheureusement, nous étions occupés à lutter pour notre survie. Nous ne savions pas ce qui allait se passer, non pas le lendemain matin, mais ce qui allait se passer le jour même. Et donc, on était dans une situation où la persécution nous empêchait de remplir notre rôle. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que la vie est rose, mais nous avons aujourd'hui retrouvé notre place parmi les nations. L'État d'Israël a été fondé, et il y a des répercussions spirituelles très importantes à ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient. Et ceux qui ne s'en rendent pas compte, en général, ce sont les Juifs eux-mêmes, parce qu'ils vivent dans l'événement, et nos sages nous ont dit « En ba'al hanes makir benisso », celui qui vit un miracle ne se rend pas compte qu'il vit un miracle. Mais il y a des répercussions très importantes. Il y a des répercussions très importantes à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, ça nous donne des responsabilités. Je voudrais vous faire très rapidement une petite revue de ce qui se passe actuellement dans l'humanité. L'humanité va mal. Il y a aujourd'hui une guerre mondiale latente. Non pas une guerre mondiale militaire, comme ça a été le cas de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, avec beaucoup de sang versé, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un conflit au niveau de la planète tout entière en ce qui concerne l'hégémonie culturelle dans le monde. À savoir, qui c'est qui va donner le ton, qui c'est qui va enseigner les valeurs dominantes dans l'humanité. Et vous avez aujourd'hui un conflit très important entre quatre foyers de culture.
Le foyer
le plus important actuellement, c'est ce qu'on appelle l'Occident, avec comme capitale New York. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui encore dans le monde, la tradition occidentale, héritière du christianisme, est encore très importante dans l'humanité. C'est elle qui fixe quelles sont les échelles de valeur des hommes. Il y a également un autre foyer qui prend de l'importance et avec violence, c'est le foyer islamique, avec comme capitale Paris. Il y a des raisons à cette erreur. Et donc, il y a, en tout cas, dans l'islamisme, une exigence, une affirmation que c'est l'islam qui doit remplacer l'Occident dans la fixation de l'échelle des valeurs. Et il y a également d'autres foyers, entre autres, l'Extrême-Orient. L'Extrême-Orient, je ne parle pas ici de la Chine, parce que la Chine s'occidentalise, ni du Japon, qui est également déjà un pays occidental, mais il y a, dans les mystiques extrême-orientales, il y a une fascination. Le bouddhisme fascine beaucoup d'âmes, le taoïsme, le shinto même, la méditation transcendantale. Il y a aujourd'hui une attirance de l'Occident pour l'Extrême-Orient. Cette attirance était plus forte au XXe siècle qu'aujourd'hui, mais elle continue quand même. Donc vous avez déjà trois foyers. Vous avez ce qui reste de la tradition chrétienne, l'islam et l'Extrême-Orient. Il y a un quatrième foyer qui est endormi, c'est Israël. Nous autres, le peuple juif, nous sommes au milieu de ce conflit, et quand il y a un conflit, on lutte. Mais on peut lutter de différentes manières. Alors, il y a une lutte économique, militaire, stratégique, tout ce que vous voulez. Mais il y a également une lutte au niveau spirituel. Nous autres, le peuple d'Israël, nous avons un message à transmettre aux nations, et quand nous ne remplissons pas notre rôle, les nations nous font des reproches. Et je voudrais vous parler ici un peu de l'intérieur du judaïsme. Vous appréciez plus le rabbin ? Je voudrais parler ici un peu de l'intérieur du judaïsme. Vous savez que ce qui s'est passé en 1948, mais encore plus en 1967, lorsque le peuple juif est revenu sur sa terre et a libéré Jérusalem, je vais vous dire ça de manière très simple, ce qui s'est passé. Il s'est passé un événement biblique à l'époque moderne. C'est extrêmement surprenant. C'est-à-dire, c'est depuis 2000 ans presque, on avait pensé que la Bible était fermée, que l'histoire telle que la Bible en parle a cessé d'exister. Et on a inventé, surtout en milieu chrétien, une expression bizarre, histoire sainte. Vous connaissez cette expression-là ? Il y a des manuels d'histoire sainte. Ça veut dire, s'il y a une histoire sainte, ça veut dire qu'il y a une histoire profane. Alors, l'histoire a été sainte à un moment, et maintenant elle est profane. Mais ce que la Torah nous enseigne, c'est que l'histoire est sainte. C'est-à-dire, l'histoire, depuis le début jusqu'à sa fin, est habitée par une recherche du Créateur pour être reconnu par ses créatures. Et au XXe siècle, l'événement du retour d'Israël à Jérusalem a fait brusquement comprendre à l'humanité que un événement biblique peut se produire en pleine modernité, alors ça voudrait peut-être dire, qu'à Dieu ne plaise, que la manière dont la Bible lit l'histoire, c'est la bonne. Mais, encore plus grave que ça, parce que ça, vous comprenez le remue-ménage que ça fait dans la théologie chrétienne, par exemple. Dans la théologie chrétienne, que le peuple d'Israël retrouve sa gloire est quelque chose d'impensable en termes de théologie sérieuse. Et puis, même pour l'islam, le fait qu'une nation qui a rejeté le prophète redevienne dominante, et encore en terre d'islam pour de leur point de vue, c'est quelque chose de terrible. Alors vous comprenez que ça fait bouger les consciences. Et puis de plus, on se dit, mais le pire, c'est peut-être que c'est la manière dont la Bible est lue par les juifs qui est la bonne. Alors ça voudrait dire beaucoup de choses. Ça explique pourquoi nous autres, les juifs, qui sommes un tout petit peuple, et l'État d'Israël qui est un tout petit État, nous sommes au centre des préoccupations médiatiques. C'est presque une obsession. Et ça, c'est très important de comprendre que nous avons un rôle. Maintenant, ce qui se passe, à partir de là, c'est que les nations nous disent, si vous avez fait tellement de chamboulements, vous avez bouleversé tout le monde, c'est que vous avez quelque chose à nous dire, non ? Et alors, que disent les juifs ? Là, je me mets en accusation. Les juifs disent, non, nous n'avons rien à vous dire. Nous sommes des Européens persécutés qui ont cherché refuge au Proche-Orient. C'est tout. Mais sachez que nous sommes très bien. Nous sommes des Européens comme vous, des Américains comme vous. Et d'ailleurs, nous avons également une vie ultra-moderne à Tel Aviv. Nous avons une ville touristique, Jérusalem. Non, il n'y a rien de particulier. Et nous disons ça, vous savez pourquoi on parle comme ça ? Parce que nous avons beaucoup d'humilité. Mais, quand les nations entendent ce que nous disons, ils nous disent, mais enfin, ça ne va pas la tête. Qu'est-ce que vous faites là-bas alors ? Si vous êtes des Européens, vous n'avez rien à faire au Proche-Orient. Vous nous avez trompés. Alors, donnez ce pays aux autres, il est aux Palestiniens, pas à vous. Vous comprenez la logique morale qui se cache derrière ça. Or, effectivement, nous autres, peuple d'Israël, nous avons quelque chose à dire. Et nous sommes à ce moment de l'histoire où c'est notre devoir de le dire. Alors, il y a... est-ce que c'est ici, disons, de l'orgueil ? Oui, vous voyez, allez-y.
Oui, je voulais poser une question tout d'abord pour... Oui, exactement. Donc, je voulais vous remercier pour tout ce qui...
Ça viendra.
Exactement. Oui. Et aussi poser une question par rapport à la présence du rabbin de Lyon, que je salue, que nous saluons tous, je pense. Au fait, c'est de savoir vraiment ce que vous attendez. Nous, je voudrais, avant qu'il ne parle, qu'il puisse nous dire deux mots sur ce qu'il souhaite vraiment qu'on fasse, parce que c'est tellement beau.
Écoutez, nous avons ici une journée toute entière, et ce que nous attendons de vous et ce que nous attendons de nous sera d'abord un sujet d'échange entre nous. Et également, il y aura des interventions qui vous expliqueront. Là, ce que je fais, pour l'instant, c'est une, si vous voulez, une introduction. Je suis content que ça vous fasse plaisir, mais c'était qu'une introduction quand même. D'accord ? Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau... D'ailleurs, je pense que M. Don Rabin vous en a parlé un peu. Il a parlé des sept commandements de Noachide. Il faudrait donc développer un peu ce que cela veut dire, parce que ce n'est pas si simple que ça. En tout cas, les nations attendent d'Israël donc un message. Ce message, nous avons à le donner. Et les prophètes... Je parle ici d'Isaïe, par exemple. Ce n'est pas de l'orgueil de notre part, c'est simplement une mission qui nous est donnée. Nous sommes, si la Providence a choisi le peuple d'Israël pour servir de bouche envers les nations, alors nous sommes un canal. Et donc nous avons simplement un devoir de transmission, pas un devoir surtout ni de domination, ni de direction des gens, mais nous avons un devoir de transmission. La transmission de la parole de Dieu. Cette parole qui s'est tue depuis que les prophètes ont cessé de parler, demande à être entendue. Elle a certaines traductions, et ça, on va vous expliquer par la suite ce que nous attendons de vous, mais je pense que vous le savez déjà. Et les prophètes, je parle ici d'Isaïe, ont dit quelque chose de très beau. Ils ont dit Ve'alchou amim rabim, ve'amrou, ve'lechou bena'ale el harachem, de nombreuses nations iront en disant montons vers la montagne de Dieu, ve'yorenu miderachav, pour qu'il nous enseigne de ses voies. Venelcha Beorchota, que nous marchions dans ces sentiers, Kimitzion Tetzetora, car de Sion sort une Torah, Udvar Hashem Yerushalayim, la parole de Dieu sort de Jérusalem. C'est-à-dire que il y a des enseignements, et ces enseignements ont différentes manières de traduction. Je voudrais peut-être, pour donner un tout petit début de satisfaction à votre demande, je voudrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a 3 ans, lorsqu'un Français de Bourgogne est venu me voir à Jérusalem. Un monsieur dont je ne dirai pas le nom, mais qui est très cultivé, et qui m'a dit « Monsieur le rabbin, je suis venu vous voir parce que je sais que Dieu a créé le monde et qu'il a choisi le peuple d'Israël et que j'aimerais bien savoir ce qu'il faut faire pour adhérer à Dieu. Mais, a-t-il tout de suite rajouté, ne me parlez pas des 7 commandements noachides, ça je le fais déjà. » Alors, je lui dis « Mais alors, qu'est-ce que vous voulez de moi ?»« Mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Ben, je lui dis, c'est très simple. Au début, très naïvement, je lui dis, ben, vous prenez une poussette de supermarché, vous vous promenez dans les rayons du judaïsme et vous choisissez ce qui vous semble bon. Il dit, non, pas du tout, ça ne va pas. Puisque c'est quelque chose qui vient de Dieu, ça doit venir par une instruction, c'est à vous de me dire ce que je dois faire. Bon, alors j'étais bien embêté. Alors on a eu un entretien dans lequel j'ai étudié un peu la vie spirituelle du personnage, et alors j'ai pu lui donner également quelques instructions, le concernant en particulier. D'accord ? Mais enfin, ça demande beaucoup de débats, ne serait-ce qu'au niveau de la halakha, de la loi juive. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Quels sont les mitzvot, les commandements qui peuvent être accomplis par des non-juifs ? On aura l'occasion, je pense, dans le cours de la journée, de discuter de ces choses-là. En tout cas, une chose est claire, c'est que Dieu a conclu une alliance avec l'humanité. Et cette alliance est appelée Berit Bene Noach, l'alliance des fils de Noé. Cette alliance mentionnée dans la Torah est antérieure à l'alliance conclue par Dieu avec Israël. Mais le souvenir de cette alliance est porté par la nation d'Israël. Et donc c'est notre travail d'étudier ensemble le contenu de cette alliance. Et c'est pour cela que nous avons bientôt, nous avons ici toute la journée devant nous. Nous allons faire une petite pause de 4 minutes et 27 secondes. Et nous nous retrouverons après ici pour un débat entre nous. Voilà. Merci de votre attention.